Actuellement, il fait nuit, il est 4 heures, et j'enregistre ce texte à voix basse car les murs qui m'entourent sont fins et je n'aimerais pas perturber le sommeil des endormis. Vous êtes au début de l'heure hebdomadaire de Radio Plateforme pour la clé des ondes, et c'est Fraction 13-12 qui vous parle. Vous vous apprêtez à entendre une lecture d'un texte en cours d'écriture. C'est une première mouture qui sera réécrite, découpée, augmentée, surtout toute la partie de la saison que j'aimerais plus longue et détaillée, et la fin plus précise. C'est une étape de travail, pas un objet fini, mais j'avais envie d'en tester un format audio et de le partager avec vous. Ce texte s'appelle « Il n'y a plus de saison ». J'adore me promener. J'ai toujours la tentation de pénétrer les halls d'immeubles ou les demeures des gens lorsque je croise dans la rue une porte entrouverte. Est-ce un oubli ? Quelqu'un qui déménage et qui laisse entrebâiller sa porte d'entrée pour faciliter ses allées et venues ? Serait-ce sinon une invitation ? Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis imaginée rentrer chez des inconnus et être surprise sur leur canapé, assise et souriante. Ils seraient sûrement mal à l'aise, peut-être un peu effrayés, mais ce sentiment ne durerait pas longtemps face à mon sourire gentil. Ils me demanderaient « Mais que faites-vous ici ?» et je leur répondrais « Je visite. » Parfois, je crains que vieillir augmente mon potentiel menaçant face aux inconnus qui me surprendraient assises dans leur canapé ou parcourant leur bibliothèque d'un air espiègle. Je n'aimerais pas qu'ils deviennent violents par peur, mais je suis prête à tout. Je me dis qu'une jeune femme enjouée qui utilise votre bouilloire est sûrement moins malaisante qu'une vieille trouvée en train d'inspecter votre frigo. Peut-être que la jeunesse laisse le bénéfice du doute, puisque les jeunes femmes sont associées à la beauté. Les inconnus seraient enclins à pardonner l'intrusion d'une jeune femme qu'ils considéreraient belle, gentiment stupide, donc adorable, mais moins à accepter celle d'une grabataire qu'ils jugeraient sénile et probablement mal coiffée. C'est en pensant à ces portes entrouvertes et au mystère qu'elles me laissent fantasmer, ces volets d'escaliers sombres, ces salons de fauteuils mous, que je m'hydrate avec les crèmes et huiles de mes clients lorsque je fais un tour dans leur salle de bain. Je me dis que je maintiens ma peau en bonne santé et mon apparence jeune. Ainsi, les inconnus qui me surprendront visitant leur salon lorsque je passerai à l'acte n'auront pas peur de moi. Un peu d'huile d'olive volée dans la cuisine peut aussi très bien convenir lorsque le client ne nourrit jamais sa peau. Celui que j'ai vu cet après-midi m'avait dit « Mets des talons si t'en as ». Il m'a accueilli dans un appartement au volet mi-clos. Un sèche-cheveux traînait sur le canapé et des cartons d'électroménager vides au sol. Il dit « C'est l'appartement d'un ami. Il me le prête car il s'est cassé le pied. » Comme à chaque fois qu'un client déclare que le logement dans lequel il m'accueille n'est pas le sien, je me demande si c'est vrai, si son ami sait qu'il va y coucher avec une pute à laquelle il demande de garder ses chaussures. Je les ai empruntées à une copine. Il s'agit de bottines en cuir noir à talons aiguilles, 10 cm, je dirais. Le cuir a un aspect légèrement rugueux. Je ne sais pas marcher avec des talons aiguilles. Lorsque mon client m'a guidée dans les couloirs de l'immeuble jusqu'à l'appartement de son ami, je me suis demandé s'il avait remarqué ma maladresse sans talons aiguilles, même si je m'en fous. Il a été exigeant, a réclamé une photo de ma tenue avant que je le rejoigne, pour savoir si je m'étais vraiment habillée comme il le voulait. J'ai porté des baskets en mauvais état sur le trajet. Serait-il moins excité s'il apprenait que je n'ai pas pris le tram en chaussures à talons aiguilles ? Dans sa salle de bain, j'ai trouvé un flacon étiqueté « huile précieuse ». Le liquide contenu paraît épais et délicatement pailleté. Je me suis remémoré des conseils lus sur Internet. Comment avoir la peau des pieds en bonne santé ? S'enduire les pieds d'huile d'amande douce avant de dormir et garder des chaussettes toute la nuit. Il n'y a pas d'heure pour avoir des pieds précieux, me suis-je dit. Sur le chemin du retour, j'ai l'impression d'écraser de la vase. Mes pieds sont humides et imprégnés d'huile précieuse à tel point que mes chaussettes elles-mêmes me paraissent mouillées et glissantes. Lorsque je suis apprêtée et perçue comme belle de manière stéréotypée, je me sens capable de voler tout ce que je veux dans les supermarchés. Ce soir-là, mes pieds devenus soyeux m'ont donné le courage de m'attaquer aux rayons fruits et légumes. Je sais, personne ne peut constater l'état de la peau de mes pieds, mais ce secret m'a fait me sentir belle et donc protégée au point que je décide de voler des aubergines, lesquelles, par leur taille, sont généralement les légumes les plus difficiles à voler, mais parfois pas autant que les divers choux ou le céleri branche. J'ai calé 3 aubergines dans la doublure de ma doudoune et suis partie sans rien payer. Une fois arrivée chez moi, je les ai disposées sur ma table à côté de celles que j'avais achetées la veille, alignées par ordre de taille. En les lustrant un peu, je pourrais presque voir le monde se refléter sur leur peau violette. « Mes clients mentent sur leur âge, sauf ceux qui désirent que je les domine sexuellement. Je mens aussi. Je leur dis que j'ai 22 ou 23 ans. Un bon âge pour incarner l'étudiante en chasse d'argent, de sexe et d'aventure que certains veulent que je sois. Mes clients finissent par m'avouer leur âge après qu'ils aient joui, en quête d'approbation, ravis et faussement honteux d'avoir couché avec une femme si jeune, et je leur dis d'un air bienveillant que ça ne me dérange pas. C'est ce qu'ils attendent que je leur dise, et c'est aussi la vérité. Leur âge ne me dérange pas parce que j'envisage l'activité sexuelle que nous avons engagée comme un travail. Ils veulent savoir que leur âge n'est pas un problème pour moi, car ils espèrent être séduisants à mes yeux malgré tout. Ils veulent se dire que je fais ce travail par amour du sexe et que j'ai pris du plaisir pendant notre rapport. D'autres craignent que je me force. Certains clients se comportent comme s'il y avait un truc entre nous. Pour eux, notre transaction n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. C'est parce qu'ils sont très seuls que je leur souris et que je les écoute sans les juger, parce que je les comprends. Je peux tout comprendre et sourire en même temps. Aujourd'hui, j'ai voulu voler un produit cosmétique. Un sérum booster d'hydratation sous forme de gelée à la rose, présentant des paillettes iridescentes quasi imperceptibles. Je me suis fait repérer sur les caméras de surveillance et dirigée dans une petite pièce emplie de cartons vides. Je voulais obtenir cette gelée scintillante car je n'ai pas pu emprunter de crème hydratante à mon client d'aujourd'hui. C'est celui que je rencontre dans un magasin de literie qui, me dit-il, appartient à l'un de ses amis. Le magasin est fermé lorsqu'il m'accueille, mais je fais semblant d'être une cliente à laquelle il présente quelques matelas avant de m'inviter vers une chambre témoin minuscule dans laquelle trône un vaste lit. Ce client porte toujours des lunettes de soleil qu'il retire une fois rentré dans la chambre témoin, comme s'il voulait être incognito, comme s'il jouait à être une star. Ce client a envie d'entendre qu'il sent bon, qu'il ne fait pas son âge et qu'il a une queue magnifique. Lorsqu'il est content, il me surnomme Petit Bouchon. Je me demande bien ce que je bouche et je ne suis pas si petite, donc je suppose qu'il me trouve mignonne, que je bouche quelque chose de manière mignonne. Ce client a essayé de négocier le prix de notre rencontre, alors je ne le reverrai plus. Et comme il n'y avait pas de crème ou d'huile dans le magasin de literie, je n'ai pas pu hydrater ma peau afin de la maintenir en bonne santé, et j'ai donc dû tenter de voler cette gelée à la rose. La femme qui m'a conduite dans la petite pièce m'a montré un enregistrement vidéo tremblotant et pixelisé. Je me reconnais, inspectant le sérum booster d'hydratation avant de le glisser dans ma poche. « Si tu te fais toper, tu dis que c'est pas toi sur la vidéo », m'a conseillé un jour un ami. « C'est une image, ce n'est pas toi, ça ne suffit pas comme preuve. » J'ai songé à nier. La femme m'a averti que quoi que je dise, elle ne me croirait pas, car elle connaît bien les gens comme moi. Les gens dont la parole n'a pas de valeur parce qu'ils volent. Elle a ajouté que je n'ai pas besoin d'un sérum à la rose, que c'est un produit bien trop luxueux pour une fille comme moi. J'ai hésité à lui parler du magasin de literie dépourvu de substances hydratantes. À lui expliquer que j'ai besoin d'avoir une peau en bonne santé, d'être séduisante de manière normative, car c'est comme une arme pour moi. Je me suis dit qu'elle recevrait sûrement très mal ces informations et qu'on donnerait encore davantage ma moralité, ce qui pourrait la conduire à appeler la police. J'ai payé le sérum booster d'hydratation et je suis partie. Récemment, j'ai constaté que mes pieds ressemblaient désormais à ceux de ma mère. Leur peau, notamment celle du talon. Elle est très sèche, pâle et un peu fripée, présentant de subtiles crevasses à certains endroits. Parfois, des petites particules blanches se détachent si je gratte. Je me rappelle de même sur Internet. Un pied similaire au mien, mais d'une sécheresse d'un stade bien plus avancé, tout squameux, au-dessus d'un plat de spaghetti. Au-dessus d'un plat de spaghetti. Une râpe est posée à côté et « Mmm, fit parmesan !» inscrit en haut dans une police agressive. Ou bien un pied couvert d'ampoules dont l'une a été percée, et emplie de boissons énergisantes orange. Mes pieds ne sont pas couverts d'ampoules ni au stade du parmesan, mais leur état me déplaît. Je n'aime pas avoir l'impression de perdre des petits bouts de peau. Ai-je trop marché pieds nus cet été? Peut-être que circuler en tongs est désormais à proscrire pour moi. Ou bien serait-ce un problème d'alimentation? Je me rappelle, enfant, arracher les peaux blanches sur les talons de ma mère, leur texture fine et tendue, rugueuse sous les doigts de pied. J'imagine la potentialité d'avoir perdu un petit morceau de peau chez un client, quelque part sous une table, se confondant avec la poussière. Cette idée me dégoûte. Ma peau devrait rester sur moi. J'hésite à couvrir mes pieds de gelée du sérum booster d'hydratation et mettre des chaussettes pour la nuit. Chez moi, dans la cuisine, les trois aubergines que j'ai obtenues en premier ont commencé à se friper légèrement. Je n'ai plus de dentifrice, alors je suis allée au supermarché. J'y suis restée très longtemps, car je n'arrivais pas à choisir parmi les cinquantaines de promesses différentes. Que privilégier ? Avoir des gencives saines ? Les dents blanches mais au charbon ou à la menthe ? Ou bien une haleine fraîche ? Une pâte biologique et 98% d'ingrédients naturels censés freiner l'apparition du tartre ? Une action totale 8 soins en un ? Je finis par me décider pour une gelée bio aux principes actifs, facilitant la réparation des gencives abîmées. Je ne crois pas que les miennes le soient, mais ce dentifrice les maintiendra peut-être dans leur forme optimale. Sur le chemin du retour, je croise cette porte entrouverte. Elle est bleue, en métal, en haut de trois marches en pierre. Je la fixe pendant quelques secondes, ou bien quelques minutes, jusqu'à me sentir intense et acérée. Cet entrebâillement mince, je pourrais y glisser la main. Je pourrais pousser un peu la porte, craindre son grincement, et en découvrir l'envers. J'imagine un couloir sombre et silencieux. Je n'appuierai pas sur l'interrupteur. Je me tiendrai sur le pas de la porte et attendrai que mes yeux s'habituent à la pénombre. Puis, tout doucement, je le franchirai. Il y aurait quelques portes d'appartements différents offertes à moi, fermées. Peut-être des chaussures en vrac sur un porte-chaussures en métal, à côté d'une des entrées. Et des parapluies, deux par exemple. Un petit dont le manche se replie, et un grand, gris et vert à carreaux écossais. Je suis devant la porte entrouverte, tout près. L'air autour de moi me compresse. Je pourrais tendre la main à la pousser, mais je me penche seulement et hume le parfum qui s'en exhale, frais et renfermé, odeur similaire à celle du dentifrice haleine fraîche que j'ai ouvert pour sentir, un peu plus tôt dans le supermarché. Je pense au dentifrice réparation des gencives qui se trouve actuellement dans ma poche et me dis que les habitants de ce petit immeuble ont peut-être le même que le mien. Je me sens profondément contrariée à l'idée que mon dentifrice existe en de multiples exemplaires dans de multiples appartements. Au lieu de me déplacer pour le voler et risquer de me faire bannir d'un magasin supplémentaire, j'aurais simplement pu m'introduire chez quelqu'un afin d'utiliser le sien. Une fois chez moi, je dépose une noisette de dentifrice sur mon doigt. C'est une gelée rose dans laquelle j'observe de tout petits cristaux. Apparaissent-ils lorsqu'il fait froid ou bien la DLC est-elle dépassée ? J'aime me déplacer pour rencontrer mes clients car ça me permet de visiter plein de maisons, d'appartements et d'intérieurs différents. Il y a celui que je vois toujours dans des chambres d'hôtel. Il vit seul et n'a pas de contact avec son voisinage, mais trouverait ça trop intime de m'accueillir dans sa demeure. Cette timidité me rend curieuse. Peut-être a-t-il peur que je constate que nous ayons le même dentifrice. Ou peut-être a-t-il une grande quantité de maisons vides et il craint que je le juge. Je ne le montrerai pas car je suis très professionnelle, mais c'est vrai que je le jugerai s'il a de multiples résidences secondaires. Ou bien il n'en a aucune et pas de foyer non plus, et ne fait que traverser des chambres d'Ibis Hôtel. J'avais lu un manga à propos de personnes qui s'introduisent chez les autres, appelées les sangsues. Elles repèrent leur proie, les observent pour apprendre leur routine et s'infiltrent chez elles lorsqu'elles n'y sont pas, au travail par exemple. Y penser me fait frissonner, j'adorerais vivre ainsi. Est-ce que j'en profiterais pour dormir ? Me savonner avec les produits d'un inconnu ? Voler de très petites quantités de nourriture dans divers frigos pour que ça passe inaperçu ? Je pense que je m'assiérais seulement quelque part, sans froisser les draps ni déplacer le linge sale, sans allumer de robinet, ni même la lumière. Je regarderai partout autour de moi, les yeux écarquillés, et respirerai l'air du domicile de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais probablement légèrement déshydratée depuis des années. Je suis allée chez le client qui me reçoit dans une grande maison au bord d'une écluse, en périphérie d'un village plat, au bâtiment grisâtre. Cette maison est entièrement vide, à l'exception d'une immense table de billard qui trône dans le salon et d'un matelas cendre à housse posé à même le sol dans une pièce à l'étage. Je sais que ce client ne vit pas ici, il me l'a dit. Il m'y accueille car il ne veut pas que son voisinage l'aperçoive avec une fille comme moi, et puis il a une femme ou bien une ex-femme. Les lèvres du client de la maison au bord de l'écluse sont petites et très dures. Chaque fois qu'il veut m'embrasser, c'est juste une tentative. Il presse ses lèvres rigides contre les miennes sans les bouger, le corps soudain tout raide, et je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'en pense sa femme ou son ex-femme de ses baisers. Ce jour-là, il a voulu que nous nous posions sur le banc qui est devant l'écluse. Il a roulé un pétard qu'il a allumé, me l'a proposé, j'ai refusé. Nous sommes restés assis en silence, sans que ce soit malaisant. J'étais juste un peu interloquée, de l'ordre de l'amusement, car je sais qu'il ne veut pas être vu en ma compagnie d'habitude. J'étais sapée de manière un peu absurde alors qu'il faisait frais, une petite jupe rose à carreaux style Avril Lavigne. J'adore m'habiller, je me déguise en permanence, j'enfile de multiples identités. Ici, celle d'une jeune fille un peu apprêtée sans en avoir l'air, trash et cute à la fois. Je comprends ce que mes clients veulent que je sois dès nos premières discussions. Une femme fatale, chic et vénale, une étudiante en galère, érudite et discrète, une jeune insouciante qui aime le sexe et l'aventure, pétillante et infantile. Ils projettent sur moi ce qu'ils recherchent et je me fais un plaisir d'incarner tous ces rôles et plus encore. Je suis assez flexible avec le temps que j'accorde à mes clients et je sais que c'est en partie pour ça qu'ils trouvent que mon service est de qualité. Par rapport à l'heure qui est censée durer notre rencontre, il m'arrive de rester plus ou moins longtemps. J'aime beaucoup discuter et je sais que la plupart des clients en ont envie. Comme le client de la maison du bord de l'écluse ne parlait pas, je regardais toute cette eau devant moi, les oreilles et la tête remplies du bruit qu'elle faisait en jaillissant du petit interstice accordé par les portes en métal. Je me disais qu'il faudrait que je teste de boire plus d'eau, que c'est peut-être ça mon problème, la déshydratation, qui destine mes pieds à devenir du parmesan. Je lui ai dit « Je devrais boire plus d'eau ». Il a jeté le cul de son pétard encore fumant au sol, affalé sur le banc et lâché. « Tu vois, ici nous est dans le Médoc, et le Médoc c'est une putain de principauté. Ça fait 50 ans, même plus, qu'il n'y a rien qui va ici. Les gens de l'extérieur voient que les grands domaines viticoles de mon cul, ouais, alors que nous on est dans la galère, il n'y a pas d'emploi, et tout le monde s'en fout, c'est l'omerta ici. Les pauvres sont cachés à la campagne dans le Médoc, et il se passe que dalle, et le monde crève peu à peu autour de nous et on peut putain de rien y faire. Est-ce qu'il fera même trop chaud pour les vignes bientôt ? Qu'est-ce que j'y peux, moi, au réchauffement climatique ? Il n'y a plus de saison, putain. Les aubergines poussent même plus quand il faut. » Le client de la maison au bord de l'écluse n'avait jamais été du genre à s'épancher, alors j'ai pris sa tirade très au sérieux. Je me suis sentie stupide de lui avoir dit quelque chose d'insipide et d'égocentrique, comme le fait que je devrais boire plus d'eau, doublement stupide, que ce soit cette phrase qui ait déclenché ce discours. Je me suis rappelé qu'à notre première rencontre, il tenait à me donner 800 balles juste pour observer mon anus. Je me suis concentrée sur le bruit de l'eau qui chargeait ma tête et mon corps tout entier, un martèlement jusqu'au bout de mes doigts, reliant toutes mes terminaisons nerveuses au flux continu de l'écluse, comme des tentacules invisibles et vibrants. Là, je me suis sentie insignifiante et essentielle à la fois, sans entre-deux, onduleuse. Puis j'ai pensé très fort, il n'y a plus de saison. Et je n'ai pas répondu à mon client, car j'ai jugé qu'il n'attendait pas de retour, que ce moment près du bruit de l'eau ne faisait pas vraiment partie de notre rencontre liée au travail du sexe. Les aubergines qui m'attendent chez moi. Comment savoir si elles ont poussé au bon ou au mauvais moment? Comment est-ce que ce client sait quand les aubergines sont censées pousser? Je me suis renseignée sur mon potentiel problème de déshydratation et découvert que je fais bien d'utiliser des crèmes hydratantes sous forme de gel, comme le sérum booster d'hydratation, car ce sont les substances cosmétiques qui contiennent le plus d'eau. Cette connaissance me réconcilie un peu avec le fait que j'ai dû payer le sérum. Je me prépare des bouteilles d'eau dans lesquelles j'introduis des morceaux de concombre. Le goût est plus agréable, et le concombre étant un légume particulièrement aqueux, je me dis que le pouvoir hydratant de l'eau que j'ingère est doublé. Je reste prudente, car j'ai lu que boire trop d'eau fait gonfler les tissus et diluer le taux de sodium dans le corps, ce qui pourrait entraîner la mort. Chez moi, les aubergines sont de plus en plus fripées, surtout celles que j'avais obtenues en premier. Alors j'envisage les enduire elles aussi de sérums boosters d'hydratation, afin de voir si cela les maintient dans leur état idéal. Cette idée m'amuse. Je les glisserai dans des chaussettes, comme mes pieds, et les y laisserai la nuit baignées dans les sérums hydratants. Elles en émergeraient glorieuses, brillant d'un éclat magnifique, leur peau violette tendue et lustrée, source de lumière rayonnante. Debout dans la cuisine, une aubergine terne et ridée en main, je repense à cette histoire de saison. Il n'y a plus de saison, aux légumes dits hors saison. J'imagine un monde où, pour camoufler la péremption des fruits et légumes et pouvoir réaliser plus de profits, les supermarchés les feraient tartiner de crème hydratante par leurs employés afin de leur redonner une pulpe lisse et les remettre en rayon. Tu ne saurais pas si tu achètes un légume frais ou un légume croulant au cœur en décomposition, leurré par sa belle enveloppe. Cette idée m'amuse profondément. Peut-être n'est-elle pas fictive. J'ai entendu dire que les légumes du supermarché sont lavés et qu'il peut y rester des résidus de savon. Pour cette raison, il faut les éplucher avant de les consommer. Peut-être qu'il faut que j'arrête de manger des légumes de supermarché, ainsi les plats que je prépare seraient encore meilleurs. Je fantasme parfois cuisiner un délicieux repas chez une personne inconnue, le laisser prêt à être consommé. Entrée, plat, dessert, découverts en rentrant, comme apparu par magie. J'ai conscience que ce serait potentiellement terrifiant pour la personne chez qui je me serais introduite pour emprunter la cuisine. J'ai peu d'ustensiles chez moi, car ce ne m'intéresse pas de cuisiner lorsque je suis seule. Mes repas sont simples et répétitifs, une majorité de légumes, parce que leur chair contient beaucoup d'eau. Mais je me renseigne malgré tout pour manger équilibré, afin de conserver une belle peau et la santé optimale, qui me permet d'exercer mon travail de manière performante. C'est lorsque je visite mes amis que je cuisine. J'adore utiliser tout leur matériel pour concocter des plats qui leur font plaisir. Je me sens toujours chez moi partout, même lors de ma première irruption dans le domicile de quelqu'un d'autre. J'observe avec attention et ressens un amour profond pour chaque objet, pour toutes les façons dont sont décorés les intérieurs, chaque mug, chaque pile de linge sale. J'examine et je me dis « j'aime tout ». C'est absolu. J'aime tout parce que c'est la manifestation de l'existence de quelqu'un d'autre et ça me remplit de joie. Mon appartement est petit mais ça ne me dérange pas, il m'indiffère. J'ai juste le nécessaire, des vêtements et du maquillage pour me déguiser, deux assiettes et quelques couverts, un lit. Je n'ai pas besoin de plus parce que je sais que tous les objets dont je rêve existent déjà et se trouvent dans d'autres domiciles que le mien. La potentialité de pouvoir entrer doucement chez quelqu'un par une fenêtre laissée ouverte et profiter de son canapé moelleux me suffit. Je me déplacerai délicatement, créature feutrée et aérienne, m'assierai à table ou dans un fauteuil dans lequel je ne laisserai aucune trace en repartant, même pas un coussin déplacé, comme si mon corps n'y avait jamais pesé. Certains clients aiment que notre rencontre se déroule selon des protocoles précis. Celui que je retrouve dans des chambres d'hôtel cheap dont il ne peut prétendre que c'est celle d'un ami adore les protocoles. Je dois rentrer dans l'hôtel après lui, il m'attend déjà dans la chambre. Il ne veut pas être vu en ma compagnie pour sauver son honneur ou le mien, qu'en sais-je. Les clients qui aiment se faire dominer en ont parfois honte. Les femmes qui sont généralement à l'accueil savent très bien ce qui se trame, mais tout le monde fait comme si de rien n'était. Elles me sourient. Je leur souris en leur demandant la direction de telle ou telle chambre, sûre de moi et maquillée. Le mascara que je porte dans ces occasions est un costume, une armure qui m'infuse de l'aplomb dont j'ai besoin pour faire tout ce que je veux. Ce jour-là, dans une chambre au rideau clos, j'ai comme toujours, et selon son protocole, giflé mon client, puis recouvert son corps de pinces à linge tout en étant assise sur son visage. Je l'ai promené avec un collier de chien et appelé Snoopy, fessée puis réconfortée, déguisée en infirmière. Je ne me sentais pas autant investie par mon rôle que d'habitude et j'ai craint qu'il le remarque et méprenne mon état rêveur pour du jugement. Mais tout ce à quoi j'étais capable de penser en lui enfonçant un suppositoire dans le cul de manière sexy, c'est « il n'y a plus de saison ». Pourquoi cette phrase ne me quitte-t-elle pas? Est-ce une expression générique que les gens utilisent depuis les années 50 ou bien un reflet véritable des problèmes climatiques contemporains? Quelles sont les conséquences de la fin des saisons sur les fruits et légumes? Je devais prendre le bus pour rentrer chez moi. Mais faute à un problème quelconque, le service était interrompu. J'ai fait du stop, me disant que j'allais demander à être déposée au supermarché pour voler des légumes de saison. J'aime beaucoup faire du stop quand j'ai l'occasion. Ça me permet de rentrer dans l'intimité d'autrui, l'espace de quelques minutes, de quelques heures, d'observer les documents négligemment jetés sur les sièges arrière, les jouets d'enfants, les gobelets vides de café. Je me sens toujours détendue, assise dans les voitures anonymes, accueillie, protégée dans un espace hors du temps, enfin soulagée de quelque chose d'étouffant et d'inexprimable que je n'avais pas conscience d'éprouver avant de me retrouver là. J'ai levé le pouce, jugeant ma présence plutôt comique en fin d'après-midi sur ce rond-point de la zone industrielle, maquillée de subtiles paillettes violettes, des billets plein les poches. Quelques voitures sont passées avant qu'une épave bleue à la peinture écaillée s'arrête. Je suis montée sur le siège passager en cuir défoncé et ai découvert un soixantenaire en marcel blanc un peu sale et souriant. Sur le rétroviseur était accroché un petit tapis portant l'inscription « Joël », peut-être une réplique de médaille en tissu. Une veste en jean bleu clair drapait le siège conducteur, pendant depuis le repose-tête. Au dos était peint le Grand Canyon, surplombé d'un aigle féroce et de gros lettrages rouges chicanos, Johnny Hallyday. « Ah, t'es une vraie baroudeuse, toi !» m'a dit le conducteur avec ravissement. Je me demande ce qui, chez moi, lui a donné cette impression. Généralement, je reçois plutôt « Ça ne se fait plus le stop par les temps qui courent. Une jeune fille seule, vous êtes un peu inconsciente. Je m'interroge régulièrement sur la nature des temps qui courent. Peut-être sont-ils la fin des saisons ? Joël, je présume que c'est son prénom, m'a raconté qu'il était baroudeur dans le temps lui aussi. Contrairement à moi, il a traversé l'Europe entière avec une guitare et ses Amix dans les années 80. Ses doigts sont jaunis par le tabac à rouler. À ce moment, en fixant ses extrémités ocrées serrées sur le volant, j'ai réalisé que je crois n'avoir jamais rencontré de vieilles baroudeuses dans l'espace public. Où sont-elles, les grand-mères aux doigts jaunes et aux ongles crades ? Toujours dehors ? Ont-elles abandonné la vie de la vadrouille pour des cuisines aux meubles Ikea ? Ou bien mortes quelque part ? Je me demande si c'est parce que j'aime visiter les domiciles des autres et que je fantasme de m'y introduire que Joël a reconnu en moi une baroudeuse. Peut-être suis-je une exploratrice de l'intimité, contrairement aux aventuriers à la conquête de territoires soi-disant vierges et sauvages. Je suis une baroudeuse des lieux habités et banals, des intérieurs lassants, connus. J'adore découvrir mille façons peu surprenantes de découvrir un appartement. Une main sur le volant, Joël m'a ensuite révélé son statut de sosie officiel de Johnny Hallyday. Il n'est pas du coin, mais il est assurément son sosie officiel, donc j'ai de la chance de le croiser là, dit-il. D'habitude, il est plutôt Vérigusson. Il incarne Johnny dans les bars, chante contre quelques pièces ou bières et anime des karaokés. Il ne ressemble pas du tout à Johnny Hallyday. Je l'ai bien regardé, rien chez lui ne ressemble à Johnny Hallyday. Il est bedonnant, édenté, les cheveux gris et bouclés. Il a dit que l'hiver rend l'incarnation de Johnny plus ardue. Les gens vont moins aux bars et les bars programment moins de karaokés. L'hiver. Plongé à nouveau dans l'abîme de mes questionnements saisonniers, j'ai oublié Joël et Johnny et pensé avec intensité « Quand est-ce que j'ai fait attention au passage des saisons pour la dernière fois ?» J'ai fait rouler la phrase dans ma tête en détachant chaque mot jusqu'à ce que je m'en sente empli, jusqu'à ce que je ne ressente plus le chaud ni le froid. Rien d'autre que cette phrase et le cuir de la voiture collé sous mes cuisses par la sueur. Pour l'enfant que j'étais, les changements de saison marquaient le passage du temps et les vacances. C'était toujours des petits événements, une certitude de la réitération des années et de mon état de vivante qui grandit. Ma mère me disait de faire un vœu à chaque fois que je mangeais un fruit ou légume de saison pour la première fois de l'année. Les premières fraises de l'été, par exemple, les premiers haricots verts au printemps. La seule règle, c'est que ça ne fonctionne qu'avec des aliments frais, pas de conserve ni de surgelés, donc. Je revois le village où j'habitais, envahi par la neige, la rue pentue où je faisais de la luge, les écoles fermées parce que le bus ne pouvait plus circuler. Maintenant, il ne neige plus en hiver là-bas, il n'y a plus de saison. Je ferme les yeux. Je me sens bien dans la voiture de Joël, dans cette odeur de tabac froid et d'essence, d'outils en métal graisseux et cuir de vieille bagnole, le musc de Johnny, me dis-je, transpercé par un sentiment proche de l'éternité, comme être à la fois très heureuse et très triste. La fenêtre est ouverte et la campagne plate défile entre mes cils qui se rejoignent. Je vois un monde infini de perles de lumière capturées par des rayons changeants, verts et dorés. Je sens que Joël attend que je lui fasse la conversation, mais tout ce que je suis capable de lui dire, c'est « il n'y a plus de saison ». À ces mots, il hoche la tête d'un air grave et ravi, et je sens qu'il comprend ce que je veux dire, qu'il éprouve lui aussi la fin de l'existence des saisons. Est-ce que tous les vieux baroudeurs deviennent des sosies officielles de Johnny Hallyday ? Existe-t-il une sorte de club qui les réunit ? J'ai eu une révélation. Peut-être que mes pieds se transforment en parmesan à cause des légumes non nutritifs générés par la disparition des saisons. Heureusement, le sérum booster d'hydratation a l'air de fonctionner lorsque je m'en mets sur les talons et que je garde mes chaussettes pendant la nuit. J'ai fini par sauter le pas et en étaler sur mes aubergines flétries que j'ai bien massées pour faire pénétrer la gelée, rangées elles aussi dans des chaussettes. Ce matin, j'ai revu le client qui veut que je porte des chaussures à talons et des barésilles. La dernière fois, il m'a demandé de me mettre à quatre pattes sur sa table basse et m'a parlé de son travail de conducteur de bus, des difficultés qu'il rencontre en l'exerçant. Et aujourd'hui, il m'a fait du flan pour que nous le mangions ensemble. Il me le sert dans le salon mal rangé de l'appartement de son ami. Moi, en robe transparente et courte, lingerie apparente, maquillage acéré. Lui me scrute dans l'attente que je lui dise « Ton flan est délicieux ». Il l'aime et je n'ai pas faim. Je le déguste quand même élégamment parce qu'il s'est donné la peine de le préparer pour moi. Comment ce serait un flan à l'aubergine ? J'aurais pu lui demander de m'en cuisiner un. Ça ne pourrait être que délicieux ou immonde, de couleur grisâtre. Ça se mangerait froid, légèrement gluant mais ferme, un peu suintant. Je me demande si le flan est bon pour la peau et si je ne ferais pas mieux de m'en tartiner dessus pour en tirer le meilleur au lieu de l'ingérer. Le client des chaussures à talons aiguilles m'interroge sur les études que je lui ai dit que je fais. Je n'entends même pas ce que je lui réponds, car je pense trop fort, il n'y a plus de saison. Je m'invente des métiers, des études, et certains de mes clients se sentent autorisés à me donner des conseils de carrière alors qu'ils n'y connaissent rien, qu'en réalité moi non plus, et que leur attitude condescendante m'ennuie. Celui-ci me répète tout le temps qu'il veut me protéger. Aujourd'hui, il insiste à nouveau tandis que j'ingurgite son flan d'un air ingénu. Je me demande bien quelle menace me guette qui justifierait un besoin de protection. La fin des saisons me paraît être un péril global qui dépasse ma simple personne. Je savoure le métal froid de la cuillère sur ma langue et je souris sans réussir à définir si je me sens amère ou ravie et me rappelle soudain que j'avais incarné une saisonnière une fois. Illumination. Les saisonniers, évidemment. Ce sont les personnes qui s'y connaissent le mieux en saison. C'est contenu dans le nom de leur travail. Les saisonniers auront une expérience et une compréhension complète des saisons et de leur disparition potentielle au fil des années. Peut-être qu'il faut que je m'infiltre parmi elles pour en apprendre davantage. Les jours passent, les légumes et les clients aussi. J'ai l'impression de ne plus pouvoir m'exprimer autrement qu'en disant « il n'y a plus de saison », avec ma voix et mon corps tout entier. Chacun de mes gestes exprimant cette phrase, et je ne comprends pas comment mes clients ne s'en rendent pas compte. Est-ce qu'ils ne voient en moi que ce qu'ils projettent ?« Il n'y a plus de saison », déclarent mes gémissements toujours plus fins. La moindre goutte de sueur qui roule dans mon dos le murmure, chaque fois que je me cambre, que je lèche un morceau de corps. La seule chose que je crie, c'est « il n'y a plus de saison ». Pourtant, j'y pensais comme une blague au départ, comme un filtre amusant sur la réalité. Mais je m'en sens désormais prisonnière. Je repense au flan de mon client, me demande d'où viennent les pruneaux et s'ils ont poussé à la bonne saison. C'est un cauchemar. Un trouble m'envahit face à tous les fruits et légumes que j'ingère, que je vois. Je ne peux plus rien consommer normalement sans éprouver un terrible sentiment de fin du monde imminente, d'immobilisme séculier radical. Tous les jours, je contemple le bouleversement sans précédent des temporalités connues des humains, du cycle des années et de la vie, et j'ai peur. J'ai peur de la fin du temps. Je me vois dans l'incapacité de continuer à vivre comme je le faisais. J'ai lu sur Internet que les fruits et légumes que nous mangeons aujourd'hui sont beaucoup moins nutritifs qu'avant, que les races anciennes et plus qualitatives sont interdites à la vente, le commerce des graines rigoureusement contrôlé, et que nous avons besoin de compléments alimentaires pour vivre sainement. Qu'il faut prendre du zinc pour avoir de beaux cheveux. Je crois que les trucs lus sur Internet commencent à m'épuiser. Il est temps que j'agisse. Faut-il que je m'introduise chez un maximum de gens possibles pour relever la diversité des légumes dans le frigo et en faire des statistiques? Tous les soirs, chez moi, je contemple les chaussettes dans lesquelles j'ai fourré des aubergines couvertes de crème hydratante. Je les prends en main, les enserre légèrement sans les écraser. Elles me procurent un terrible sentiment de vacuité, et j'ai peur de les libérer et d'être atrocement déçue si elles présentent toujours leur aspect vieux et fripé, leur réseau de rides. Peut-être que je devrais les offrir à mes clients avant de partir en saison. Car ma décision est prise. Je dois partir enquêter sur la disparition des saisons. Je vais me faire passer pour une saisonnière. Depuis, j'observe encore davantage tout ce qui m'entoure, les appartements de mes clients, de mes amix, les rues, les supermarchés, pour graver dans ma mémoire le moindre détail. Le travail du sexe a peut-être été ma seule occasion de pénétrer chez des inconnus et d'utiliser leurs produits. J'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais exister de la même manière, que ce qui m'occupait jusqu'alors, rentrer chez les gens, me paraît cru à la lumière de la mort des saisons et donc du temps. Le dernier client que j'ai vu avant de partir, c'est celui qui me dessine nu dans la salle informatique de sa boutique d'ordinateur. Il ne veut pas me toucher. Il s'approche très près de moi comme s'il voulait m'inspirer par ses narines, comme si c'était possible que je change de forme et que je me coule en lui. Ce jour-là, il me dessine avec des pastels de couleurs. Il n'est pas très doué, mais le résultat est surprenant. La forme de mon corps est étalée sur sa feuille, étrange, ouverte. On croirait que mon dos est une pelouse, une crête. Des rayons jaunes jaillissent de mes bras. J'ai l'impression de voir une île, quelque chose de végétal, ou bien un très vieil animal sénile, recroquevillé sur lui-même, au pelage incrusté d'algues et de terre, verdi par le temps antique. un ami m'a donné un plan pour faire des vendanges. Ainsi va débuter mon observation des saisonniers. Je me demande si les maisons de mes clients et celles fantasmées des inconnus chez qui je ne me suis pas introduite vont me manquer. En revanche, ce dont je n'ai pas peur, c'est de passer mes journées à l'extérieur, car j'ai perpétuellement l'impression d'être dehors, même lorsque je suis chez moi. Je ne doute pas faire une saisonnière crédible dans le but d'examiner les vrais et d'être accueillie parmi eux, me sachant douée pour interpréter tout un tas de rôles. J'ai décidé de partir en stop. C'est le meilleur moyen pour commencer mon enquête, en interrogeant mes hôtes temporaires sur l'état actuel des saisons. Le jour de mon départ, j'ai mangé des poireaux que j'ai du mal à rincer, alors j'ai de la terre entre les dents qui crisse lorsque je les serre. Un son aiguisé qui résonne curieusement dans les os de ma mâchoire et qui m'accompagne de manière plutôt réconfortante. J'espère n'avoir aucun grain visible entre les dents. Je suis assise toute droite dans un camping-car dont la décoration est vaguement invasive, thème nappe de pique-nique à carreaux rouges. Je suis un peu étourdie, car il vient de se produire un événement dont je ne parviens pas à savoir s'il est ou non d'une importance capitale. La voiture précédente qui m'a prise en stop, c'était celle de Joël, le sosie officiel de Johnny Hallyday, et il m'a offert un présent dont je ne sais que faire. J'étais déjà plutôt loin de chez moi, sur une départementale, à lever le pouce dans la chaleur, le corps moite et les yeux plissés sous le soleil, sur le bitume, le crissement de la terre dans mes dents et dans ma boîte crânienne, et la rage, la peur au ventre, à cause de l'omniprésence de la pensée de la fin des temps et des saisons. Et j'ai vu la voiture de Joël s'approcher. Je ne m'y attendais tellement pas, et lui non plus, à cette nouvelle rencontre. Je suis montée dans cette impression de retrouver un ami, un espace confortable où j'avais été comprise. Un lieu ouvert dans l'odeur de graisse mécanique et de musc de vieux cuir. D'un coup, mon enquête a pris plus de corps et de sens, séparée d'un éclat d'aventure, d'une aura de récit digne d'être transmis. Joël, le vieux baroudeur, a mis un CD de Johnny et a commencé à chanter pour moi. Je l'ai regardé s'égosiller au volant, comme si la voiture allait très vite et que nous roulions sur une route 66 française. Je me suis demandé quelle serait sa réaction s'il apprenait mon travail. J'ai envie de me dire qu'il ne le commenterait pas plus qu'un autre. Parfois, je sens les hommes qui me prennent en stop ravis d'avoir une femme souriante dans leur voiture. Certains se permettent même un comportement séducteur. Comment cela réagirait-il s'il savait quel est mon travail? Me demanderait-il du sexe? Ou bien m'éjecterait-il de leur voiture tout en ne s'arrêtant même pas de rouler? Confortablement installé dans le cuir du siège passager, j'ai repensé aux rues serrées de ma ville. Je regarde les arbres si verts défiler et je pense... Je suis dehors. Et d'un coup, ressens à nouveau l'écrasement du bruit de l'eau jaillissant de l'écluse, cette porosité avec le monde qui m'entoure. Le vent, par les vitres grandes ouvertes, fait tourbillonner mes cheveux autour de mon visage comme des milliers de serpents très fins et légers qui s'agiteraient sur ma peau, qui rentreraient dans ma bouche, se colleraient lascivement dans le blanc de mes yeux pour envoler l'humidité. Est-ce possible de sentir la saison qui est selon la chaleur, selon la moiteur de l'air, la texture de l'atmosphère sur sa peau? J'ai essayé très fort d'éprouver tout ça. J'ai fermé les yeux avec passion pour tenter de capter la densité des courants d'air avec mon épiderme. Joël a continué de me chanter des chansons de Johnny de façon épique. Alors, pour le remercier, je lui ai dit « Il n'y a plus de saison, Joël. » Des larmes lui sont venues aux yeux. Il m'a dit « Je suis content de te revoir, c'est le destin. » Il s'est garé sur la départementale, au milieu de rien, et sorti de sa voiture. Je l'ai suivi sur le talus et je l'ai regardé fouiller dans son coffre. Ses ongles sont striés, un peu sales. Ça m'a fait penser à ceux de ma mère. Enfant, je pensais qu'ils étaient striés parce qu'elle faisait trop la vaisselle, qu'il passait tout son temps dans la cuisine, ses ongles striés et translucides, comme si le blanc avait été décoloré. Plus tard, j'ai appris que c'est une conséquence de carence. Ma mère a-t-elle toujours eu des carences? Parfois, mes ongles sont striés aussi. Joël a exhumé une mallette de son coffre, et de la mallette, un truc emballé dans un sac plastique qui ressemblait à du tissu. Un costume plié, peut-être. Il m'a dit d'en prendre soin, qu'il ne transmettrait pas ce trésor à n'importe qui, qu'il me l'offre parce que c'est le destin et que je l'ai touché et qu'il a aimé m'interpréter la chanson « Ma jolie Sarah », même si je ne m'appelle pas Sarah. Il a répété plusieurs fois « T'es belle, toi ». Et je pense qu'il ne commentait pas vraiment mon physique, mais qu'il me trouve belle de manière générale, en tant que personne, même si mes pieds ne sont pas totalement lisses et hydratés et mes ongles striés. Je me dis que personne n'a dû l'écouter depuis un moment. Il m'a dit « C'est la peau de Johnny Hallyday, vraiment. C'est elle qui fait que je suis son sosie officiel lorsque je l'enfile. Je te la donne. » J'ai pris le sac sans l'ouvrir, sans savoir si je devais paraître amusée ou sérieuse. Alors, dans le doute, j'ai adopté une posture très solennelle, hochant la tête, et l'objet apparemment si précieux s'est retrouvé entre mes mains. La peau de Johnny Hallyday? Je ne me suis jamais intéressée à lui. Que faire de ce truc? Le travail saisonnier a commencé. Je pense faire une saisonnière crédible, malgré l'accident du premier jour. Je me suis profondément entaillé l'index de la main gauche avec ma vendangette. Je commençais à peine à m'habituer aux longues rangées de vignes, à me traîner à genoux dans la terre, dirigeant les grappes de manière à les faire tomber dans mon seau en plastique noir, admiratif de la puissance de la vendangette, ce petit sécateur me permettant de couper des branches sans effort. Je la promenais dans les feuilles, puissante et connectée au monde, aux vignes, le sentiment d'être au bon endroit, dans la bonne saison, et j'ai soudain ressenti une douleur vive, incompréhensible. Et là, ma peau pendant de part et d'autre de mon doigt, et les feuilles crénelées tachées de rouge dégoulinant, une odeur de métal, de poussière et de sucre. Moi, étourdi. Quelqu'un a dit « Ah, c'est parce qu'ils ont mal effeuillé, ça, c'est pas ta faute. » Et on m'a amené des compresses et du scotch pour que je puisse endiguer le saignement, puis retourner travailler. En regardant dans mes chairs, là où la peau s'est ouverte, j'ai eu l'impression de distinguer quelque chose d'irisé, comme du miel. Mes tempes bourdonnaient un peu et je ne ressentais rien de précis. J'ai continué à travailler, à couper les grappes de raisin noir violacé. Parfois, je les soupèse dans mes mains, je les presse légèrement, séduite par l'idée des grains qui éclatent et de la pulpe qui dégoulinerait hors de sa peau. Mais je ne vais jamais jusque-là. J'en mange quelques-uns et je me sens infusée de sucre et de couleur violette. Les journées passent vite et je n'ai même pas de courbatures. Je m'entends bien avec tous les saisonniers, les rires fusent. Je me sens intégrée dans le groupe et je me demande si c'est ça, une saison qui existe vraiment. J'observe les autres en permanence et je leur pose des questions d'ordre agricole. Pourquoi la date du début de saison varie d'un an à l'autre? Qu'est-ce qui produit ce changement? Observez-vous un désordre grandissant dans le déroulé des saisons au fil des années? Est-ce dû au réchauffement climatique? À la pluie? Quels fruits et légumes sont les plus affectés? Avez-vous moins conscience du passage du temps qu'avant? Je crois que je m'amuse bien, et certains jours, j'oublie de m'hydrater à l'aide du sérum. Mes cheveux sont sales et ça ne me dérange pas. La poussière de la terre sèche leur donne un effet gonflé et mat que j'apprécie. Je vis sur le terrain des saisonniers, à l'orée de la forêt, au centre duquel une énorme citerne contient de l'eau potable et une autre, en hauteur, permet de se laver. Des chiens haletants sprintent autour des camions dans lesquels vivent certains d'entre nous. Nous avons improvisé une cuisine extérieure que j'aime beaucoup. Parfois, lorsque je travaille, je me lèche la peau pour savourer le goût légèrement salé de ma sueur. Mes lèvres pèlent à cause de l'exposition au soleil, mon nez aussi, mais j'ai l'intuition qu'utiliser de la crème solaire me couperait de l'expérience totale de la saison. Je préférerais en étaler sur les raisins pour retarder leur maturation. Je vais toujours me coucher le plus tard possible car j'aime la vie en groupe, mais aussi parce que je ne me sens pas très à l'aise avec le cadeau de Joël. Les patrons me prêtent une vieille caravane exiguë qui est dans la forêt, un peu en pente, un peu humide. Le matelas est creusé au milieu de l'empreinte combinée des corps de multiples saisonniers passés là avant moi. Je me love dans cette cavité qui, la nuit, me donne la réconfortante impression d'être englobée. Je rêve d'ectoplasmes fluorescents qui viendraient poser leurs mains sur moi, à travers moi. Le premier soir, une fois seule, j'ai déplié la peau de Johnny hors de son sac et l'ai étendue sur le matelas de la caravane. C'est une enveloppe, une forme vide d'humain, un peu rêche et douce à la fois, fripée et velue là où Johnny l'était. De quoi est-elle composée? On croirait une immense chaussette de chair beige aux yeux et à la bouche béant. Sur le dos, une fente, une ouverture permettrait de l'enfiler. Sa bite molle et aplatie pendouille comme un vieux gant. Ça se voit que c'est la peau d'un vieux riche flétri. Elle me dégoûte. Je n'ai jamais voulu la posséder. Je ne sais qu'en faire. Elle m'encombre et j'ai confusément conscience de la nécessité de cacher son existence auprès des saisonniers. Cette peau ne les concerne pas. Faut-il que je l'hydrate? Je ne veux pas cacher le peu qu'il me reste du sérum booster d'hydratation, bien que l'état de mes pieds se soit nettement amélioré. Oubliez le parmesan. Est-ce que c'est parce que je sue dans mes bottes en plastique non respirant toute la journée? Je n'avais peut-être besoin que de ma propre exudation pour m'hydrater. J'ai disposé la peau de Johnny au sol, près de mon lit, en position assise, attendant sagement mon retour du travail chaque soir. Parfois, lors de mes allées et venues entre les camions et tentes de mes camarades, je repense à mes préoccupations d'exploration du domicile d'autrui. Elles me paraissent lointaines. Nous sommes dehors en permanence, alors il n'y a pas vraiment d'endroit où m'introduire, à part peut-être la peau de Johnny. Aujourd'hui, nous sommes allés au supermarché. Il y a d'autres saisonniers qui travaillent dans les exploitations voisines. Nous nous reconnaissons mutuellement, étant généralement couverts de terres et de vêtements élimés. Nous rions fort et achetons beaucoup d'alcool. Il y a aussi ces femmes, et parfois leurs enfants qui galopent entre les rayonnages avec joie et fracas. Elles font partie de communautés gitanes qui habitent en camping-cars et caravanes regroupées au milieu des vignobles et font aussi la saison. Beaucoup d'entre elles sont grosses et courbées. Leurs mains sont abîmées, tordues. Je les imagine travailler depuis si longtemps dans les exploitations agricoles que leur physique est marquée. Leurs ongles sont-ils striés ? Je me demande parfois comment je prendrais soin d'elles si elles étaient mes clientes. Je leur masserais le dos, je les caresserais de la plante des pieds à la paume de leurs mains. Je leur demanderais quels sont leurs désirs et je leur obéirais. J'aurais presque peur de ne pas savoir comment m'occuper d'elles. Que puis-je donner à ces femmes qui travaillent aussi dans les vignes ? Que me donneraient-elles en retour ? Chaque fois que nous passons devant les camping-cars, je me demande si ma faculté de percevoir ce qu'un client désire et incarner ce rôle à la perfection fonctionnerait avec des clientes. Je n'ai jamais eu de cliente, même si j'aurais aimé. Et je ne crois pas que ces saisonnières solliciteraient mes services. Il fait nuit. J'ai pris de la kétamine. Nous l'avons cuisinée dans la même poêle qui a servi à faire cuire les courgettes du dîner d'hier. J'ai versé un liquide dedans et l'ai observé se solidifier en minuscules cristaux, comme l'apparition d'un réseau d'îles. C'était fascinant. Là, je suis allongée sur le sol en pente, un peu crade, de ma caravane, toute tassée parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, et je fixe la peau de Johnny qui me rend mon regard depuis le lit dont j'ai l'impression qu'elle m'a chassée. J'ai essayé de l'enfiler hier et c'était nul. Je crois qu'elle a senti mon dépit et qu'elle se venge. J'y suis rentrée par la fente dans son dos, en imaginant qu'elle s'ajusterait automatiquement à la forme de mon corps, tel un costume héroïque, mais elle ne sert vraiment à rien. Elle pendouillait lamentablement, et je suis demeurée inchangée par cette expérience, si ce n'est frustrée. J'aurais voulu tester la sensation d'un vrai pénis et pouvoir le manipuler, comme je rêve souvent, mais celui de Johnny est resté mou et fripé, vide comme son enveloppe. Après coup, ça m'a dégoûtée d'avoir enfilé cette peau de vieux chanteur symbolique. Est-ce que la mienne va s'enlever comme ça aussi un jour ? Je me tortille sur le lino et je murmure, ou bien je pense, qu'y a-t-il sous mon épiderme ? J'ai la sensation d'exister de manière dense, tellement remplie et désirant l'être toujours plus. Je ferme les yeux et je tombe dans du duvet de poussin tout chaud. Ma peau me semble hérissée de petites crêtes ondulantes. J'aimerais toucher les choses et me mélanger avec elles. Il existe peut-être un point de collision où les particules qui composent le lino, mes habits et moi-même se rejoignent et se confondent. Est-ce possible de le ressentir ? Ouvrir tous les pores de ma peau et aspirer un peu ce qui m'entoure, toucher ce lino de manière nouvelle, absorbante, encore inconnue des humains. Le silence est statique et il fait chaud. Chaque jour qui passe, je me fais la réflexion que le travail du sexe et le travail saisonnier ne sont pas si différents. J'utilise mon corps et je malaxe des matières. Je cligne des yeux et l'espace d'un instant, je vois le monde comme à travers la gelée de sérum booster d'hydratation, l'inutile peau de Johnny qui me renvoie une expression réprobatrice. Est-ce que les cosmétiques dont je me tartine retardent vraiment mon vieillissement cutané ? Si je me fends en deux, tous les produits hydratants absorbés par ma peau vont certainement dégouliner en une mélasse translucide et brillante. C'est peut-être ça ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Il y a un pré rempli de coquelicots à côté de celui où vivent les saisonniers. Nous y sommes allés aujourd'hui et j'ai ramassé plein de fleurs. On m'a dit que c'était les derniers coquelicots de la saison. Je les ai attrapés dans mes mains et serrés, et les pétales doux et fluides, un peu frais, écrasés contre ma peau, la texture rouge vif, à peine perceptible, ça m'a excitée, donné envie d'en avoir des poignées dans les bras, collées à ma peau. On dirait des petites ailes. Je les ai écrasés entre mes doigts qui se sont colorés de violet bleuté. J'étais surprise. Pourquoi utilise-t-on l'émoji aubergine pour représenter la bite? C'est franchement le légume qui en est le plus éloigné, à moins d'avoir une grave maladie. Depuis, mes mains conservent cette teinte violacée et je trouve ça joli. Chaque fois que je les contemple, je ressens à nouveau ce sentiment d'excitation, quelque chose de pur et palpitant, une ouverture acérée à l'intérieur de moi. Cette nuit, je n'ai pas dormi dans la caravane avec la peau de Johnny, car j'ai l'impression qu'elle me juge en permanence. Alors, je me suis couchée dehors avec les chiens. Ils m'ont tenu trop chaud et m'ont réveillée en aboyant. Tous les jours, je suis saisie par la beauté des saisonniers qui m'entourent. J'aime notre vie partagée et je trouve leur existence féroce. Il y en a quelques-uns qui boivent trop, bassent de la coke et s'écroulent entre les vignes lorsqu'il fait excessivement chaud. Le soir, il y a le riz, je les examine et je pense « j'aime tout ici ». Ce n'est pas la vie des patrons. Eux, je les déteste parce qu'ils nous méprisent. J'ai l'impression qu'ils nous considèrent comme des animaux, des créatures pas vraiment humaines qui n'ont pas besoin de confort, juste d'un peu d'alcool et de drogue pour fonctionner. Les patrons nous méprisent précisément parce que nous travaillons pour eux, parce qu'on se traîne le cul dans la terre pour ramasser leurs raisins. Condescendants, ils s'adressent à nous comme à des enfants fous et indociles. Et je m'imagine leur cracher leur champagne au visage parce qu'ils ne sont pas capables de considérer l'existence de ces personnes que j'aime. Dans ces moments, l'intensité de mes sentiments m'étourdit, et je réalise que j'ai peu à peu oublié mon enquête, mon statut d'infiltré parmi les saisonniers. Mon immersion dans ce quotidien se traduit sur mes mains, perpétuellement sales, violacées, couvertes d'égratignures et de plaies plus profondes qui ne cicatrisent jamais vraiment. Des lésions crevassées colmatées par un agglomérat sombre de terre, de suc de raisin et de sang au goût sucré et métallique. Je me demande combien de pourcentage de jus de raisin circule désormais dans mon corps. J'ai régulièrement de la terre entre les dents qui crisse lorsque je mange, et ça me fait me sentir dans les choses, connectée avec la vie que je mène. Je ne me suis jamais autant sentie dedans qu'en étant dehors. Aussi, je ne dors plus sur le lit dans la caravane, mais à même le sol. J'ai l'impression que c'est le domaine de la peau de Johnny à présent. Pour me venger d'avoir été chassée du matelas, je l'ai rempli avec des aubergines couvertes de crème hydratante premier prix volées au supermarché. Je les ai fourrées dans la peau ouverte et vide par sa bouche béante, et maintenant elle est encore plus monstrueuse, charnue, déformée par les légumes qui sculptent des bosses aux courbures étranges sur ce corps à l'aspect huileux. Je me suis coupé les ongles le plus court possible, jusqu'à ce que la partie pulpeuse et molle de mes doigts saute à découvert. Puis j'ai inséré lentement mes mains gluantes de crème hydratante dans les yeux de la peau, dans sa bouche, dans ses oreilles. Je fouille entre ses légumes lubrifiés et élargis encore plus les orifices bâillants. C'est ma déclaration de guerre à cette peau qui est mon ennemi, dont je ressens la désapprobation permanente et incompréhensible, avec laquelle je ne peux communiquer. Je n'ai plus de sérum booster d'hydratation depuis quelques jours. Je crains de ressentir des démangeaisons, une altération étrange de mon épiderme. Pour me distraire de cet affût, je rejoins trois des saisonniers qui discutent autour d'une bière. Nous parlons de travail, d'argent, de subsistance, et là, c'est le drame. Assez naturellement, je parle du travail du sexe, et quelqu'un dit « Bah, c'est vraiment dommage de faire ça contre de l'argent, quand même. Il faut réserver son corps aux gens qu'on aime, c'est triste d'en arriver là. » Soudain, ma forme me brûle. Ma peau se hérisse, comme si elle était aquatique et venait d'absorber une pierre qui a produit sur sa surface des cercles concentriques. Je pense au sérum booster d'hydratation. J'en ai besoin pour apaiser cette réaction. Vite, mais il n'y en a plus. Je n'ai jamais été touchée par le jugement des autres, mais je n'avais jamais autant habité une vie comme celle-ci avec les saisonniers. Je pensais que le travail du sexe ne poserait pas de problème ici. D'ailleurs, peut-être que les autres saisonniers n'ont pas du tout le même avis. Mais quelque chose vient de s'ouvrir en moi avec fracas, qui ne peut être colmaté par du suc de raisin de la terre, qui me fait l'effet de m'être cognée sur une vitre invisible. Je les regarde disserter sur l'amoralité des clients et des putes sans les entendre vraiment, projetés loin, dans un monde où j'aurais accès à du sérum booster d'hydratation pour me protéger de ses propos et reprendre mon chemin, digne et inchangé. Pourquoi mon travail serait-il plus méprisable qu'un autre? Est-ce que mon travail me définit? Pourquoi est-ce que le travail du sexe en particulier compromettrait l'intégrité de celles qui le pratiquent? Le travail saisonnier touche le corps aussi, abîme davantage les mains, les genoux, la colonne vertébrale, la peau. Est-ce que le problème c'est le sexe? Peut-être que ces personnes croient que c'est ainsi qu'on entre sous l'épiderme d'autrui, qu'on peut altérer quelqu'un, que le sexe, c'est le seul véritable accès à l'intérieur des autres. Pourtant, aucun de mes clients n'est jamais rentré sous ma peau, alors que le jus de raisin l'a fait. Les activités que j'ai engagées avec eux n'ont jamais rien eu à voir avec l'amour que je fais avec d'autres et qui n'est pas un travail. Et mes clients m'ont respecté, amusé. Découvrir la décoration de leur salon et leur choix de produits hydratants m'a passionné. L'herbe autour de moi est cramée par le soleil et la poussière colle à mes cuisses moites de sueur. Je me lève. J'entends le sang qui bat dans mes oreilles. J'ai la sensation qu'un endroit de moi s'est ouvert et que le monde se cogne dedans. Je suis agitée par une multitude d'émotions indéchiffrables qui font frissonner mon enveloppe de manière incontrôlable. Peut-être que je peux utiliser la crème hydratante qui a servi à lubrifier les aubergines qui garnissent la peau de Johnny pour contenir cet élan. Tant d'amertume. Je me sens punie pour avoir perdu mon but de vue, pour avoir cru pouvoir exister dans une vie qui n'est pas la mienne. J'aurais dû m'en tenir à mon enquête sur les saisons au lieu de m'en mêler aux raisins et aux saisonniers. Punie pour m'être enfin sentie à l'intérieur de quelque chose, appartenir. Punie par le jugement de mes camarades, par le jugement des patrons et de la peau. Ce que je ressens en m'éloignant de la forêt est au-delà de la honte, parce que je n'ai pas honte. Je me sens floue, être juste une forme d'humaine qui pensait l'être, humaine, alors que les autres n'attendaient que de me dire que je ne le suis pas. Cascade de sentiments effilés qui me traversent, qui s'entrechoquent. Est-ce que je me heurte aux arbres en rejoignant ma caravane? Une branche me gratigne la cuisse, ma peau s'ouvre et saigne rouge, mais je distingue aussi des reflets dorés, des filaments de miel qui s'échappent de la plaie et poissent sur ma jambe. Une terreur structurelle m'envahit, celle de me fendre en deux, de perdre toute ma substance et de devenir vide de tout monde comme la peau de Johnny, une peau vacante et inutile, triste, stérile. Elle est toujours envahissante sur le lit dans la caravane qui fut un temps mon domicile, globuleuse des aubergines suintantes qui lui donnent une forme et entre lesquelles j'ai l'impression que des cristaux violacés et scintillants ont poussé, qui jaillissent des trous de ses yeux, de sa bouche, de ses oreilles. Elle me fixe toujours de cet air réprobateur et je comprends enfin la raison de son jugement. Une peau de vieux chanteur riche ne peut que condamner les pauvres putes. Alors, la peau de Johnny parle. « Je te condamne, » me dit-elle. « Je te condamne à ne plus jamais pouvoir rentrer dans une maison et à ne te nourrir plus que de choses crues et froides. » Alors, je déserte. Une fuite, c'est ça que ça a été au départ. Une course effrénée dans la campagne, la forêt, les champs, les rochers, les herbes hautes et basses, sans aucune notion du temps. J'ai voulu faire du stop, mais personne ne s'est arrêté, comme si les conductrices ne me voyaient même pas. J'ai couru, j'ai crié, j'ai dormi, j'ai cherché mon reflet dans 1000 flaques d'eau en portant la sensation terrible d'avoir été bannie des choses humaines. Et maintenant, la terreur m'a quittée. Je dors dans la forêt. Je crois que je n'ai plus de visage, mais ça ne me dérange pas. J'ai de la terre sous les ongles et partout entre les dents. Mon sourire doit être terrifiant désormais. Je me promène, je visite. Je profite de mon statut de créature non humaine. J'ai trouvé les saisonniers qui font la saison des aubergines. Je sais que je ne peux plus faire partie des leux, mais je les aide quand même pendant la nuit. Je m'introduis dans les serres pour hydrater les aubergines en secret, avec de la crème volée pour qu'elles soient belles et bien charnues, réfractant la lumière, puis j'observe les saisonniers les ramasser. Personne ne me voit, alors que je suis juste là, debout. Je peux passer beaucoup de temps sans manger ni boire, mais aujourd'hui j'avais faim, alors je me suis gavée de mûres qui ont coloré mes doigts d'un halo violacé. En fait, c'est très facile pour moi de ne plus être humaine. Cette existence me soulage d'un poids dont je n'avais pas conscience auparavant. Je me suis rendu compte que je ne l'ai peut-être jamais vraiment été, humaine, qu'on me l'avait fait comprendre les fois où mon corps avait été pris de force, il y a longtemps. Peut-être que c'est là que ma forme, ma peau, a été transpercée la première fois. Les frontières de moi-même ont explosé, et c'est une des raisons pour laquelle je n'ai jamais vraiment été humaine. Mais c'est aussi ce qui me rend terriblement puissante et infinie, poreuse. Je peux m'abattre sur le monde tel un filet et me mélanger avec lui. Je crois que les produits cosmétiques contraignent ma peau à demeurer fermée, la forcer à garder une forme précise, à rester en place. Mais je me sens bien plus libre maintenant que j'assume sa porosité. Je me demande parfois ce que fait celle de Johnny. Est-elle toujours dans la caravane, remplie d'aubergines moisies? J'ai voulu rentrer dans une maison, mais à l'instant où j'ai tenté d'en franchir la porte, elle s'est fendue en deux et du miel en a dégouliné partout. Je mange de la terre, des racines et des légumes crus que je vole les saisons. Mes dents crissent toujours lorsque je les serre, et il me semble que mes os aussi. En quittant l'humanité, je me suis heurtée à une membrane sauvage et mouvante dont je n'imaginais pas qu'elle existait, et je ne sais pas si je l'ai traversée, si elle m'a recouverte et englobée, ou si elle s'est posée sur la terre et sur moi à la fois. Et maintenant que j'en ai conscience, le monde m'apparaît terrible et magique, étrange et fascinant, hostile et familier à la fois. La frontière entre moi et le monde s'est brisée, c'est ce que je voulais depuis toujours, et tous les tentacules ondoyants que je contenais se sont répandus partout, les milliers de filaments qui palpitent, qui rampent à la lisière de l'ombre. Je n'ai jamais peur, je n'ai jamais mal, je n'ai jamais froid, jamais faim ni soif. Je cours plus vite que tout le monde et je n'ai plus besoin de savoir parler ni penser. Je me retourne et je croise ton regard et tu ne comprendras pas ce que je suis car personne ne peut m'attraper. Dehors, c'est moi et je ne m'arrêterai jamais. Des étoiles lentes coulent du contact avec chaque chose que je touche, ou peut-être est-ce de l'eau. Il fait frais et humide. Les frontières s'altèrent car elles n'ont jamais été vraies. Alors tu te promèneras un jour, et peut-être que tu croiseras un morceau de moi qui sera devenu un arbre ou un pylône électrique, et qui sera à la fois un morceau et le tout. Et peut-être que tu me reconnaîtras ou pas du tout, ça ne sera pas grave. Des fleurs phosphorescentes naissent et meurent à chacun de mes mouvements. Je ne suis plus une, ni je. Je suis partout autour de toi, et tu es à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de moi, comme dans une maison immense aux portes et aux fenêtres toujours ouvertes. Je m'en vais perdre le langage. Je suis un animal fou qui bave et se répand, et ma férocité est sans limite. Je n'ai jamais peur, je n'ai jamais mal, je n'ai jamais froid, jamais faim ni soif. Je n'ai jamais peur, je n'ai jamais mal, je n'ai jamais froid, jamais faim ni soif. J'ai plus de 1000 vies et tout autant de visages.